RMC, les grandes gueules.
On s'en fout. On s'en fout pas.
Avec Anaïs Inès-Sainz, bonjour Anaïs.
Bonjour les GG, bonjour à tous. Jack Lang et sa femme Monique ont été placés sous protection policière en raison de menaces émanant des réseaux sociaux après la révélation des liens de l'ancien ministre de la Culture avec Jeffrey Epstein. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Abel?
On s'en fout pas.
Didier?
Oh, je m'en fous du règlement de compte à l'EHPAD, moi.
Barbara?
On s'en fout pas.
Barbara?
Non, on s'en fout pas. S'il y a des menaces contre Monsieur Jack Lang, après, vous savez, des menaces, il y en a beaucoup. Beaucoup de gens sont menacés. Si tous les gens qui étaient menacés en France avaient la chance d'avoir une protection policière, ils en seraient sans doute ravis. Mais parce que Monsieur Jack Lang, je pense qu'il a les moyens aussi, peut-être, de se débrouiller pour assurer sa propre sécurité. Je pense que son compte en banque devrait le lui permettre. Mais non, c'est encore Nicolas qui va payer pour la protection policière de Monsieur Jack Lang. En même temps, je pense que là, la facture commence à arriver. Ça fait plus de 40 ans qu'il vit sur la bête. La République a été bonne mère avec lui, c'est-à-dire les Français. Hein, on a entretenu le train de vie de ce monsieur, sans parler de toutes les, à mon avis, tous les cadeaux qu'il a dû recevoir de tous ses amis qu'il a à travers le monde. Et à l'Institut du Monde Arabe, il a dû s'en faire aussi beaucoup, des amis très riches qui lui ont permis aussi de continuer à vivre sur la bête. Donc moi, j'estime que la protection policière, elle devrait être minimale et qu'il n'a qu'à se payer une protection privée, parce que moi, j'en ai marre de payer pour Monsieur Jack Lang.
Ouais. Belle. Moi j'ai répondu, je m'en fous pas, mais en fait je m'en fous en fait d'une personne qui en 1977 a co-signé une pétition pour qu'on foute la paix aux pédophiles, une personne dont on sait depuis des années qu'elle ne réglait pas ses notes d'hôtel au Festival de Cannes, qui a fait pour 500 000 euros de dette pour s'acheter des costumes quand Fillon est tombé pour 3 costumes. Donc est-ce que je vais faire de lui, sans compter les autres dossiers occultes?
Apparemment,
peut-être
il payait pas le restaurant libanais.
Oui, aussi exactement, avec une dette de 40 000 euros. Donc on est encore dans cette société qui veut faire des gens qui abusent des victimes parce qu'ils seraient vieux, parce qu'ils seraient fragiles. Donc je ne vais pas m'apitoyer sur le sort de cette personne.
Oui, mais tu vois, toutes ces affaires, pardon, je suis désolé, mais là...
Tu vas te faire l'avocat du diable, c'est ça?
Ah non, pas du tout, je ne veux pas défendre Jack Lang, loin de là. Mais ce qui m'énerve, c'est que toutes ces affaires, elles sont vieilles. Hein. Noura, Smalto...
Oui, on les connaît depuis longtemps.
L'affaire Epstein est plus récente, mais ça fait quand même des années qu'ils bénéficient d'une sorte d'impunité. Oui. Donc moi, je trouve assez amusant, voire un peu débectant, de voir aujourd'hui qu'on tire sur l'ambulance parce que c'est un homme de 86 ans, en fin de vie, on va dire, qui vient de...
Qui est en train de quitter la scène,
alors que quand il était invité partout, quand il était l'un des hommes politiques les plus populaires de France, personne n'osait. Hier, Libé fait 6 pas, j'aurais aimé que Libé fasse 6 pas.
Dans les années 90, dit les journalistes.
C'est l'incarnation du gratteur de la République.
Voilà.
Ça fait 30 ans qu'il gratte.
Eh ben,
oui. Ça fait 30 ans qu'il incarne aussi la gauche caviar.
Oui.
Il était même l'incarnation.
Et là,
tout d'un coup, tout le monde se réveille en disant
Nous, on ne se réveille pas, nous, c'est les journalistes mainstream qui se réveillent. C'est Libé, c'est Mediapart. C'est le monde qui se réveille. Nous, ça fait nous, les petits gens.
Le peuple, ça fait longtemps qu'il
pèse. Le Nicolas qui pèse, ça fait longtemps qu'on sait qu'on paye pour ce guignolo.
Donc,
excuse-moi, c'est plutôt ta profession qui devrait se regarder en face et qui continue aujourd'hui à couvrir d'autres Jack Lang,
déjà je mets pas tous les médias dans la même
mais
c'est vrai qu'il y a une presse plutôt de gauche qui a été très complaisante avec Jack Lang,
celle de droite.
Ça, est-ce que ça mérite des menaces sur les réseaux? Parce
non
que
bien
c'est
sûr
pour
c'est d'animisme. Personne
les réseaux, c'est la poubelle de l'humanité, on vient pas de le découvrir. Et Jack Lang, on en est tous victimes ici, même quand on n'est pas sur les réseaux comme moi. Alors je vais vous dire,
les GG, le cri d'alerte du journal Le Parisien: les enfants peinent toujours à lire l'heure sur leur montre.
Avec les aiguilles.
Est-ce qu'on s'en fout
ou pas,
Abel?
On s'en fout pas.
Didier?
On s'en fout pas.
Barbara?
Non, on s'en fout pas.
Des profs constatent que leurs élèves ont parfois du mal à déchiffrer donc les aiguilles d'une pendule. Ce geste est enseigné à l'école primaire pourtant, mais face au digital, avec les téléphones et les montres numériques, cette pratique tend à s'oublier, mon cher Abel.
avec le digital, les montres numériques, les réseaux sociaux auxquels nos enfants ont malheureusement accès dès l'école primaire. Et on est en train d'assister à ce que j'appelle une société qui est en train d'abrutir une partie de notre jeunesse.
Tes enfants savent lire l'heure?
Oui, mes enfants savent lire l'heure.
Alors, non, mais comment tu leur as appris?
Bah, je leur ai appris moi-même avec une montre et à le lire de façon numérique et avec l'aiguille, c'est-à-dire qu'il y a aussi le rôle des parents dans une société du fast-food où en fait on veut tout rapidement. Nos enfants sont en train d'en pâtir. Ce sont eux les plus fragiles. Hein. Ça, c'est la chose que l'on oublie toujours. Et la responsabilité des adultes, c'est de ne pas attendre que l'école fasse tout. C'est de faire en sorte que nous-mêmes nous puissions suivre nos enfants au quotidien et comment dire mesurer la question de l'impact des réseaux sociaux. Et j'en profite pour soulever un autre point.
C'est pas les réseaux sociaux.
Mais si, ça y compte. En fait, c'est un ensemble. C'est un ensemble, c'est pas juste le rapport à la montre. C'est-à-dire qu'on est dans une société du fast-food, on veut que tout devienne facile. Nos enfants ne savent plus lire l'heure. Nos enfants ne veulent plus lire.
C'est digital.
C'est l'émission des parents.
Nos enfants ne veulent plus lire, en fait. Nos enfants ne savent plus rester concentrés plus de 5 minutes. C'est quelque chose qui est total. Et à qui profite le crime? Il y a des gens qui sont là pour abrutir nos enfants.
Je vous conseille l'article de nos confrères du Parisien qui raconte un prof de maths. Dans un collège, a posé la question à des enfants en leur disant quelqu'un peut me dire quelle heure il est à la pendule. 14/24 n'ont pas su lire l'heure correctement sur la pendule.
Le début de l'histoire, c'est en examen lycéens qui demandent aux profs combien de temps nous reste-t-il alors qu'il y a une pendule, quoi. C'est pas des gamins de maternelle, c'est des lycéens. Et moi, je pense que ça, c'est la faute des parents. Enfin, à un moment donné, quand tu fais des gosses, enfin, ce que tu disais, Barbara, quand tu fais des gosses,
Si, parce que quand les parents.
C'est pas toi qui as appris à lire l'heure à tes enfants.
Moi, c'est à l'école.
J'ai fait deux choses dans ma vie à mes enfants. Ils étaient en maternelle quand en maternelle quand ils ont appris à lire l'heure et l'étape de multiplication. Voilà. Moi,
c'est un apprentissage scolaire aussi.
C'est un apprentissage scolaire.
Mais on peut pas tout attendre de l'école.
C'est quand même la mission de l'école.
Bien, j'ai appris l'école à lire l'heure avec les aiguilles. C'était une boîte de fromage qu'on nous avait fait retourner avec un.
Là, on est dans les 50.
Avec un petit bouchon des punaises et on avait des
punaises. Attention, aujourd'hui, danger, punaise, tu n'as plus le droit.
Et on faisait, tu sais, des petites aiguilles, qui étaient des bûchettes. On avait écrit nous-mêmes les chiffres. Et puis hop, on faisait tourner les aiguilles. À chaque fois, on lisait l'heure à haute voix.
Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est très important d'apprendre aux enfants à lire l'heure avec des aiguilles, parce que ça développe des compétences mathématiques, notamment la question des fractions, les minutes, le concept de temps, la durée, la succession du temps.
Un truc qui n'est pas en base 10.
Voilà. Mais c'est comme la graphie. C'est la motricité fine, ça entraîne apprendre à écrire. Quel est le discours de certains parents? Donc je rejoins Abel, je suis désolée Olivier. Il y a des gens qui vont te dire, ah mais ça sert à rien, on tape à l'ordinateur. Ah mais ça sert à rien, il y a des chiffres digitaux. Les gens ne comprennent pas que, bien sûr, ils vont sans doute taper à la machine 80% de leur temps, mais c'est extrêmement important, la graphie, ça fait travailler des zones, qui sont essentielles. Donc, résultat. Comme nous.
Oui, mais à l'école,
profs,
tu dois apprendre
comme
ça.
Comme nous, prof, nous savons qu'à l'école, ça ne va pas être fait comme il faut. Nous le faisons nous-mêmes. C'est moi qui ai appris à ma fille à lire. C'est moi qui ai appris à ma fille à tenir un stylo.
Alors, arrêtons d'aller
et c'est moi qui ai appris à ma fille.
Tous les parents, ceux qui sont pas profs, ils ont pas le droit d'avoir d'enfants. Non, mais.
Eh ben, voilà
du
pourquoi
coup,
les enfants profs le
disent
mieux.
Barbara,
c'est
juste un petit truc.
Non, mais juste un truc. C'est pour ça que la République. Non, mais c'est pour ça que l'école de la République, elle s'effondre. Mais vas-y.
Ben, moi, je trouve que ça fait des générations feignants. Parce que c'est la culture du moindre effort. Dès la maternelle, il n'y a plus d'effort. Il n'y a plus d'effort de calcul mental. Il n'y a plus d'effort pour apprendre autrement qu'en digital.
Mais c'est pas vrai. Pardon.
Mais si. Attends, c'est la culture du moindre effort.
Autour de la table, je suis seul à avoir un enfant à la maternelle. Donc je sais à peu près de quoi je parle.
Et
du coup,
on en a eu aussi,
ne faites pas croire qu'on n'apprend plus rien à la maternelle. C'est pas vrai. Les maîtresses tentent toujours de faire apprendre des choses, etc.
Très bien ce que tu dis.
Il faut aussi que, bien sûr, qu'il y ait un relais à la maison. Je suis désolé. L'école ne peut pas être simplement le lieu de réussite des enfants de profs. L'école républicaine que nous payons tous.
Mon cher Olivier,
tout ça aussi.
Mon cher Olivier,
l'école pour tous, c'est l'école qui apprend à tous les enfants
Olivier,
la même chose.
Je crois être aussi bien placé pour te parler de la façon dont des collégiens tiennent des stylos. Eh bien, je t'invite à venir dans une de mes classes. Tu as à peu près la moitié de la classe qui ne sait. Non, mais Juste un truc, non, parce que vous pouvez toujours rigoler, mais quand tu as des moitiés de classe qui ne savent pas tenir un stylo,
montre-nous comment ils tiennent le stylo aujourd'hui.
Un stylo, ça doit se tenir parce que justement, tu dois avoir une action entre l'index, le pouce et le majeur. Aujourd'hui, tu as des élèves, ils tiennent le stylo comme ça.
C'est des gauchers.
C'est des droitiers, mais ils tiennent le stylo
entre l'annulaire et le majeur.
Oui, ou bien ils le tiennent même comme ça. Donc, c'est du travail qui n'est pas fait au niveau des instituteurs. Parce que ça n'est pas appris dans les formations d'enseignants sur la question de la tenue du stylo. Ils le font un petit peu, mais ils le font pas beaucoup. Et je suis désolée, Olivier, mais viens voir l'écriture. Moi, un jour, je vous amènerai des paquets de copies.
Mais c'est moi.
Ben, je suis désolée, on n'écrivait pas comme ça.
C'est normal.
Excuse-moi.
Mais parce qu'on a changé d'époque.
Ah, bon, oui,
on a changé d'époque.
C'est-à-dire qu'on
a changé
multiplication, on n'apprend plus à lire à la police.
Parce qu'on écrit, on est
après, à 25 ans, on reste sur le canapé et on attend que les aînés tombent.
On tire à la calage à 15 ans.
Je veux bien, épouser un discours réac que vous avez, mais aujourd'hui les mômes, l'ordinateur a pris une place qu'effectivement à notre époque on n'avait pas.
Parce qu'il y a l'ordinateur, ils ne doivent plus savoir écrire. Parce qu'il y a l'ordinateur, ils doivent écrire différemment. On doit évoluer avec ça.
Mais ça
fait
des choses qu'on ne savait pas faire à leur âge.
Mais ça n'existait pas à leur âge.
Par exemple, le numérique, tout ça, on ne savait pas.
Non, mais
tu
as raison.
Mais c'est intuitif. L'intelligence artificielle, les réseaux sociaux, c'est intuitif. N'importe qui peut s'y mettre. Ça demande pas, une intelligence supérieure, excuse-moi.
On va pouvoir évoluer avec son temps tout en maîtrisant les bases.
On a des élèves qui sont à moitié illettrés, t'inquiète pas, qui sont moins performants sur les réseaux.
Je suis très déçue, les GG, je voulais vous parler.
Qui écrivait bien? Attendez, qui écrivait bien à l'école?
Tu faisais taper pareil.
Qu'est-ce que tu appelles écrire bien? Moi, on n'était pas sanctionnés quand on écrit.
T'avais des points en moins sur la propreté.
Moi, je me souviens.
La propreté, oui.
La propreté, c'était une chose.
Tu fais ça aujourd'hui, t'as l'inspection sur le dos.
Après, qui écrivait bien? Qui avait une belle écriture? T'avais pas une belle écriture.
Moi, j'avais une belle écriture. On me disait même que j'écrivais comme une fille parce que les filles avaient l'habitude de mieux écrire que les garçons en faisant des lettres très arrondies et en respectant mieux les interlignes.
Moi, j'écrivais bien parce qu'aussi, j'écrivais à la plume. Et moi, on m'avait obligé à écrire à la plume. Et ma mère me tenait parce qu'elle disait que c'est comme ça qu'on forme une belle
écriture. Deux ans, la plume, moi, à l'école.
La plume ou le stylo plume, Barbara? La plume ou le stylo plume?
Le stylo plume, oui.
Ah, d'accord.
Alors, quand même, pas la plume.